9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et bonjour Katia Bougnatichvili.
Bonjour Philippe.
Je vais tout de suite évacuer les clichés, comme ça on est débarrassé. La rockstar des pianistes, la Beyoncé du piano, la Betty Boop de la musique classique. En réalité, vous êtes l'une des seules pianistes capables de remplir des salles immenses partout dans le monde, seulement sur votre nom. Un peu comme le chinois Lang Lang, à 33 ans seulement. Vous avez 33 ans, vous êtes géorgienne d'origine, naturalisée française depuis 2017, parisienne de cœur et d'adoption. Et pour qui serait un peu perdu, vous venez d'intituler votre dernier album « Labyrinthe ». Pourquoi Labyrinthe? C'est pour en sortir ou est-ce que c'est pour rentrer dans la salle des secrets comme dans la Grande Pyramide?
Parce qu'on n'a pas le choix, je pense. La vie, est surtout notre perception de vie, donc notre cerveau est comme labyrinthe. On s'y perd et on s'accroche à des émotions pour ne pas se perdre complètement dans la complexité de l'intellect, pour pouvoir se souvenir de choses ou alors pour ressentir des choses, ou alors essayer de ressentir dans l'avenir certaines choses pour pouvoir s'accrocher à ce qui est essentiel et trouver soulagement dans cet accrochement sur les émotions.
Vous auriez pu faire la même réponse si vous n'étiez pas musicienne. Quel rapport avec la musique? Quel rapport avec le piano? C'est quoi ce labyrinthe musical?
Moi, je pense qu'à travers la musique, j'essaye de s'exprimer ou surtout de dire les choses grâce à sonorité. À travers la musique, ce que je vois dans la musique, je pense que chacun de nous, quand on suit une phrase, ça nous mène vers quelque chose. Quand on suit les harmonies, la mélodie, la complexité de polyphonie, ça nous mène vers quelque chose, ça nous mène vers des pensées, des ressentis. Et j'essaye de mettre ça dans la dramaturgie que... dans l'interprétation.
Je sais plus, vous avez dit que c'était un autoportrait musical cet album, mais le dossier de presse de votre maison de disques Sony Classical parle d'un parcours filmique. On parlait de la nouvelle vague tout à l'heure, c'est quoi le rapport avec le cinéma et ce disque?
Alors, il n'y a pas vraiment un rapport aussi direct, c'est-à-dire que ce n'est pas autobiographie, c'est juste ma perception de la musique, de dramaturgie, de la vie, de mon cerveau, des cerveaux humains tout simplement. Le film, j'ai choisi quelques morceaux de film parce que je n'aime pas faire l'album séparément pour consacrer à la musique de film. Je pense que certains compositeurs, ils ont le droit d'exister parmi les grands compositeurs qui vivent encore dans notre perception de la musique, comme Morricone par exemple, ou Gainsbourg. Ce n'est pas de film, mais... Ouais.
Puisque vous en parlez, vous reprenez Gainsbourg à la javanaise, mais vous reprenez aussi Bach, vous reprenez aussi Chopin, vous reprenez aussi des grands classiques de la musique, justement classiques. Je vous pose la question, je vous en parle parce que lui-même, Gainsbourg, qualifiait la chanson d'art mineur par opposition à la musique classique, art majeur à ses yeux. Or vous dites, moi je ne fais pas la distinction entre les compositeurs, entre le Requiem de Mozart et une musique de film pour Sergio Leone.
Ce n'est pas forcément Requiem de Mozart, puisque j'ai choisi d'autres morceaux ici dans celle-ci, ce n'est pas le Requiem de Mozart. Mais bien sûr que j'ai fait la différence entre certains compositeurs des chansons et entre certaines chansons, tout ne mérite pas d'être à côté de Chopin et Brahms et Bach. Mais il y a certains morceaux que je pense qui méritent d'être. Ouais. Et parmi eux, c'est la Javanaise, je pense. Ou Morricone, le thème de Déborah. C'est une perception très personnelle, bien évidemment, mais j'assume.
Le Figaro a écrit sur vous, là on entend Gainsbourg, votre version de la Javanaise de Gainsbourg. Le Figaro a écrit sur vous, chez Katia Bougnatichvili, seul le répertoire est classique. Pour le reste, c'est nos limites. Et dans cet album, vous autorisez des libertés. Par exemple, on va entendre une badinerie de Jean-Sébastien Bach. Tout le monde connaît, c'est l'un des airs de flûte les plus célèbres. Et sur l'album, vous en avez fait une libre interprétation à quatre mains avec votre sœur Gvanza. Thank you. ça vous fait sourire et moi aussi, les puristes ont hurlé. La partition, c'est pas fait pour être suivi. Là, vous brodez, vous partez un peu dans tous les sens.
Alors, j'aurais pas touché un autre morceau de Bach, mais il y a certains morceaux qui permettent d'être plus libre parce qu'on sent qu'il y a de joie de vivre et l'envie d'improvisation. Et dans ces morceaux, je pense qu'il y a. Et ça souligne aussi l'idée que les grands compositeurs comme Bach ou Mozart ou d'autres peuvent être très éclectiques. Ils peuvent être incroyablement profonds. Certains profonds, d'autres considèrent comme quelqu'un de presque la musique qui est sacrale et d'autres comme profane. Mais il ne faut pas choisir en quelle classification on va mettre Bach. Il était tout en même temps. Il ouais. aimait la terre, donc il aimait la vie. Il était très religieux, mais en même temps, il aimait la vie. Donc, c'est très, très éclectique.
Oui, mais vous savez que la musique classique, maintenant, c'est devenu très compassé. Il y a même des gens qui vont au concert avec la partition sur les genoux et qui regardent si la note jouée est vraiment la note écrite.
Oui. Mais ils savent qu'ils vont comprendre que c'est mon arrangement. D'ailleurs, c'est marqué, c'est mon arrangement. Ça, on a encore le droit de faire les arrangements, je pense. Et parce que la musique est très joyeuse. Ouais. Il y a deux morceaux dans cet album où, quand je joue avec ma sœur à 4 mains, il y a un qui s'appelle... C'est quand le lien est joyeux, c'est la joie. Et dans l'autre part, dans l'operte, par intervalle, c'est le lien, c'est une douleur. C'est une douleur. Donc, faire la musique ensemble, ça peut être joyeux, ça peut être douloureux, comme dans la vie, les relations.
Labyrinthe, c'est le titre de cet album de Katia Bounatichvili. Et labyrinthesque aussi est votre vie et votre portrait. Que va faire Hélène Manarino, j'en suis sûr. C'est juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la pianiste Katia Bounatichvili, je vous présente Hélène Manarino.
Enchantée. Bonjour Katia Bounatichvili, bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Qui est venue sans sa partition.
Eh non, on va faire la vôtre justement, puisque je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, la virtuose, la musicienne, depuis que vous avez exactement 2 jours. Puisque quand votre tante vous a rendu visite pour la première fois et qu'elle vous a chanté une chanson, vous avez chanté avec elle, alors
D'où vous savez ce genre de choses.
Je vous propose ce matin de rejouer la partition de votre vie. Après avoir justement sorti ces premières notes, vous avez continué la mélodie pour les scénarios dans un premier temps que vous écriviez petite, puisque votre rêve était de devenir réalisatrice de films. Et vous aviez déjà la musique en tête. La musique en vous, vous donniez le tempo en permanence. Quand vous étiez de mauvaise humeur, vous aimiez vous réfugier près de votre piano en jouant même n'importe quoi. Et votre maman vous disait d'ailleurs, ne donne pas l'impression que tu es une grande pianiste. Et pourtant, Katia Bounatichvili, vous en preniez naturellement le chemin. Alors, un don indéniable, à l'âge de 4 ans, vous avez passé un petit examen pour rentrer à l'école. Vous aviez choisi la musique. Et pendant ce test, vous deviez reconnaître la mélodie qu'on jouait au piano. Et vous avez deviné, sans regarder le piano, les notes. Le do, le mi, le sol, le si, la gamme, vous l'aviez en tête, l'oreille absolue. Mais pas seulement, la curiosité. Et dans ce qui vous composait aussi, c'était la littérature. Vous faisiez la lecture à votre grande sœur. À l'âge de 6 ans. Elle vous écoutait et oui.
Normalement, c'est l'inverse.
Eh bien oui, c'est ça.
Elle on était comme jumelles, on avait une année de différence.
Elle vous écoutait religieusement, vous lui demandiez parfois de lire à votre place.
Une spectatrice.
Une sœur avec qui vous partagez une autre passion, les oiseaux. Les inséparables, vous savez, ceux qui se déplacent toujours à deux. Et oui, quand vous étiez petite, il y en avait 2 qui venaient toujours vous voir chez vous. Un jour, un seul est venu et cela vous a rendu très triste, Katia. Et depuis, vous refusez d'avoir un animal de compagnie par peur qu'il lui arrive quelque chose. La lecture vous a réconforté, vous aimiez grimper chez vous en haut de l'échelle pour lire tous les livres de votre bibliothèque. En Géorgie, au début des années 90, l'électricité se faisait rare, vous lisiez donc à l'aide d'une bougie. Sauf que vous étiez myope. Et c'était peu recommandé, ça quand même. Donc vous vous cachiez sous votre couette avec la bougie pour lire tranquillement. Un jour, votre maman est rentrée dans votre chambre et vous avez fait tout tomber, évidemment. Alors, on peut dire
et l'appartement a brûlé.
Et voilà, c'est ça.
Le film d'horreur.
On peut dire que la bougie, c'est un peu le bémol de votre vie, puisque plus grande, lorsque vous étudiez à Vienne, vous avez brûlé vos cheveux à cause d'une bougie.
C'est
et vous
vrai.
Avez donc dû vous raser la tête.
C'est vrai.
Oui.
Vous avez encore des photos?
Oui.
On voudrait les voir.
Pas avec moi, hein, je ne parle pas avec moi.
On veut les voir.
Voilà. Vous venez chez moi, je vais vous montrer.
Accélérons le rythme, Katia. C'est ce que vous avez fait avec le temps, vos études, vos concerts dans les clubs de jazz, les jam sessions. Vous aimez les choses carrées, propres. Vous notez tout dans vos cahiers. Bon, ce qui peut vous mettre en retard, c'est que vous n'avez
pas... Ça va un peu trop, je trouve. C'est un peu trop d'informations.
Attendez, c'est pas fini.
C'est bientôt la fin quand même. C'est que vous n'avez pas le sens de l'orientation. Vous vous perdez dans la rue et vous pouvez vous perdre aussi sur le chemin de votre loge à la Seine.
Oui.
Non.
Oui.
Si.
Toujours. Comme dans Spinal Tap.
C'est ailleurs un peu.
Toujours en harmonie avec vous-même. Vous regardez toujours dans le miroir avant de monter sur scène. Vous faites du jogging, ça vous détend. Vous ne cuisinez pas, à part que quelques salades pendant le confinement. Vous ne prenez pas de petit déjeuner, à part de l'eau. Vous aimez vous détendre devant The Good Wife ou devant le sublime paysage du lac d'Annecy. Katia Bougnatichvili, les expériences ne se répètent pas. Elles se vivent de manière intense, comme ce jour où Chris Martin, le chanteur de Coldplay, vous a appelé en numéro masqué. Vous pensiez que c'était une blague, il a dû vous envoyer un selfie en direct pour vous convaincre. L'alliance de vos musiques pouvait donc se faire. Alors l'ensemble de votre partition n'a presque aucune fausse note. Véritable chef d'orchestre de votre vie, votre passion, mariée à votre talent, constitue une sublime mélodie.
Oh, ça m'a touchée.
Et là, on vous entend au piano, le clair de lune de Debussy.
Oui.
Merci,
wow,
Hélène.
Vraiment, j'ai jamais entendu autant d'informations aussi intimes dans ma vie, pendant la radio, pendant l'interview.
Et attendez, parce qu'on marque une pause, il y a une deuxième partie.
Ah bon ?
Non, je plaisante.
Non, j'arrête.
Merci, Hélène. À demain.
À demain.
Vous restez avec
Merci
nous,
Hélène.
Katia. Dans un instant, on va parler de musique, de piano avec Eva Rock. Et je sais que ça va vous toucher encore une fois. À tout de suite. Mm-hmm.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de la pianiste Katia Bougnatichvili, qui est une sorte de phénomène, vous êtes connue dans le monde entier, vous jouez dans le monde entier, il y a une caractéristique qui fait beaucoup jaser, en dehors du fait que vous êtes une femme et que vous êtes jeune, donc déjà ça plaît pas à beaucoup de gens, c'est votre look, les robes moulantes, les décolletés. Je vous en parle parce que ça a créé des controverses, pour certains critiques vous en faites trop, je ne vais pas vous demander ce que vous leur répondez, vous êtes déjà exprimé plein de fois. Vous disiez en 2016, mon look est une forme de protestation, j'aime bien que ma personne fasse débat, protestation contre qui, contre quoi ?
Alors, que ça fasse débat, c'était pas vraiment... ça, on a un petit peu changé ce que je venais
Oublions
de dire.
Oublions le débat. Ce qui m'intéresse, c'est la protestation.
Que, quand on fait quelque chose qui est complètement authentique et ouvert, il y a certainement des gens qui vont aimer et d'autres qui ne vont pas aimer, ce qui n'est pas forcément mal, ce que je voulais dire. Mais protestation en général de classifier les femmes. Alors, je n'ai pas fait exprès pour protester, mais comme ça a créé une situation où on a parlé beaucoup de ça, hein, beaucoup critiqué aussi, j'ai trouvé que peut-être c'était une proteste qui pouvait être bien parce qu'on classifie si on est féministe, par exemple, on doit absolument s'habiller comme des hommes, alors qu'il faut être ça ou ça. Et je ne voulais pas être ça ou ça. Je voulais être tout ce que je veux être. Et je suis éclectique. Et des fois, j'ai envie d'être comme ça. Des fois, j'ai envie de négliger. Des fois, j'ai envie d'être plus sensuelle. De l'autre part, complètement négliger cette partie-là en moi. Donc, ça dépend de mes humeurs et comment je me sens. Et je ne veux pas juste procéder comme les autres exigent de moi.
Et votre maman, c'est vraiment votre styliste ?
Oui.
En plus d'être votre manageuse ?
Manager, c'est ma sœur qui est manager, ma mère, oui.
C'est en famille, vous êtes tous ici à Paris, vous êtes une pianiste précoce, Hélène l'a dit, vous avez démarré le piano à 3 ans, vous avez vraiment donné des concerts avec l'orchestre de chant de Tbilissi à 6 ans ou c'est la
oui.
légende ?
Non, c'est la vérité. D'ailleurs, c'est fréquent chez des gens qui font ce... je n'aime pas dire le métier, mais qui commencent très tôt, il y a des gens qui le font, oui.
C'était comment la vie quotidienne ?
C'était difficile, mais en même temps, je me rappelle comme quelque chose d'agréable quand même, parce qu'il y avait difficile dans le sens, surtout pour les parents, parce que pour les enfants, si nous habitons, quand on est très petit dans l'environnement où on n'a pas, par exemple, l'électricité ou des fois on n'a pas de l'eau, on s'adapte parce qu'on pense que c'est la réalité plutôt normale. Mais par contre, pour les parents, de trouver les solutions et de voir un petit peu les parents qui sont chaque jour à la recherche de... des finances ou de la possibilité qu'on puisse continuer à vivre, survivre et surtout avoir de l'éducation, ce n'est pas facile, c'est quand même un petit peu traumatisant. En tout cas, on a conscience de ça et on a plus de compassion pour les gens qui sont en difficulté. Mais il y avait l'autre côté qui était imaginaire quand on est enfant et surtout des enfants qui aiment l'art, la littérature, la musique, qui était tout le temps accompagné des livres, de la musique, de l'imaginaire, de fantasy. Et ça, je me rappelle très bien, en fait.
Et puis, on pourra en parler pendant des heures. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez toujours refusé de jouer en Russie. Il faut voir la situation entre la Russie et la Géorgie. Vous avez collaboré avec Coldplay en 2015. Ça s'appelle Kaleidoscope. Quelques mesures. Thank you. Hélène a raconté l'histoire de cette rencontre. C'est Chris Martin qui vous a appelé avec un faux numéro. Non, un numéro masqué. Il a dû envoyer un selfie de vous. Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations de ce genre ?
Certainement, je pense, avec des gens que je vais trouver aussi intéressants que Coldplay, ou très différents, peut-être deux, mais en tout cas, je suis ouverte à toutes sortes de collaborations quand c'est authentique et quand il y a vraiment, on sent que deux univers se rencontrent et créent quelque chose d'organique et authentique.
Un univers qui se rencontre avec lui-même, ça s'appelle Labyrinthe, on va vous découvrir dans cet album, Katia Abounati-Julie.
Merci.
On entend cette gymnopédie, je rappelle donc ce nouvel album, et puis des concerts en 21 janvier à la Fondation Louis Vuitton et puis à la Philharmonie les 3 et 4 février, le 9 avril, le 23 juin. Merci d'avoir été avec nous et de ces moments et de ces découvertes. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec le nouveau patron de Libération, le journaliste franco-israélien Dov Alfon. Il va nous dire un peu plus sur les nouveautés qu'il veut apporter au quotidien national. C'est que Laurent Geoffrin est parti, et il va y avoir du chamboulement. Et puis la comédienne Pascale Arbillot, elle incarne la présidente du comité Miss France dans un film qui fait beaucoup parler, Miss actuellement au cinéma, parce que c'est un garçon qui veut être Miss France. Juste après le flash, c'est une fille, Anne Roumanoff. Ça fait du bien, c'est le nom de cette émission. Je vous dis à demain et je dis encore merci, Katia Abounati-Julie.
Merci à vous.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.